survécu. J'ai eu l'occasion de faire le tour de la propriété juste pour prendre un petit peu d'air. C'est vraiment très très beau. Si entre midi et une heure, vous pouvez faire ce petit tour, il ne fait pas trop froid. Faites seulement attention à un peu de glace à certains endroits. Mais sans ça, ce qui est tellement rafraîchissant, c'est cette neige blanche. Et j'entendais chanter dans mon cœur blanc. Plus blanc que neige. C'est pas à Montréal qu'on peut chanter ça. La neige était blanche. Mais peut-être dans les environs. Hein, mais c'est vraiment reposant. Ça nous remet en forme. Dieu notre Père, nous voulons implorer ta grâce et ta bénédiction. Et nous savons que tu donnes la grâce en attendant de nous donner la gloire. Mais que nous puissions vivre vraiment de cette grâce. Donne la grâce pour parler, donne aussi la grâce pour écouter et possède-nous tout entier dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors mes amis, je pense que vous vous êtes dit, il ne nous apprend pas grand-chose en nous donnant ces versets, on les connaissait déjà, mais j'ai voulu vérifier vos fondations. Avant de construire, il faut quand même voir quelles sont nos fondations. Et vous avez trouvé donc dans ce chapitre 17 de Jérémie, j'espère qu'un jour vous le lirez entièrement parce qu'il y a des passages merveilleux dans tout le chapitre, mais vous aurez lu ces versets qui nous disent ce que Dieu pense. Ce qu'il sait de nous. Le cœur est tortueux. Une autre version dit le cœur est incurable. La version d'Arbique est la plus littérale, c'est le cœur est incurable. Pas seulement tortueux. Il n'y a pas moyen par nous-mêmes de le transformer, de le changer. C'est comme une maladie incurable. Il n'y a pas d'espoir pour ce cœur naturel. Pas le cœur que Dieu avait créé au début, mais le cœur qui a dégénéré après le péché, qui est une réalité. Dieu avait créé l'homme droit, mais si on s'écarte du chemin, eh bien, alors on arrive à cette terrible maladie du péché qui est incurable. Qui peut le connaître? Et voilà ce que nous avons besoin d'apprendre à connaître notre cœur. Vous entendez tellement cette réflexion, « Oh, il a un bon fond !» Surtout de vos enfants. Hein. À un moment donné, on dit que nos enfants, ils font les sans-coups, mais ils ont un bon fond. N'est-ce pas? Alors on s'extasie devant nos enfants. Ils ont un bon fond, on se rassure. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques, ça. C'est pas du tout biblique, mais on peut devenir même évangélique et de ceux qui lisent la Bible et pourtant continuer d'avoir ce langage. Puis après, tout à coup, eh bien, il y a des circonstances qui manifestent que notre enfant n'a pas un si bon fond que ça. Et vous savez, jusqu'à ce qu'on arrive à penser qu'on pourrait être capable, oui, moi aussi, de tuer, hein, il en faut un travail. Mais si vous n'êtes pas convaincu qu'un jour vous pourriez en arriver là, si vous étiez laissé à vous-même, vous vous trompez sur vous-même. Vous ne vous connaissez pas. Et voyez-vous, il faut que nous apprenions à nous connaître, mais comme Dieu nous connaît. Dieu, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de nous mentir. C'est de nous mentir. Il ne peut pas mentir. Alors, vous pouvez croire qu'il dit la vérité. Alors, moi l'Éternel, verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sens les reins. Ça, c'est un vrai médecin, hein. Quand il fait son diagnostic, il ne se trompe pas. Puis il ne nous fait pas il ne nous donne pas de faux renseignements, de fausses espérances. Et il dit, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On n'a pas besoin de l'allonger sur ce texte. Maintenant, dans Marc 7, vous avez vu que c'est bien le même Seigneur qui nous décrit ce qu'il peut voir dans le cœur de l'homme. Jésus disait
aux pharisiens, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme.
Parce qu'on reprochait au Seigneur et à ses disciples de ne pas s'être lavé les mains avant le repas. Et alors, c'était une souillure. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on se lave les mains, au contraire. Hein. Et puis, même, il voudrait qu'on soit plus propre qu'on l'est, bien souvent. Et même si on a fait un jeûne, eh bien, il faut laver son visage pour ne pas montrer qu'on a jeûné. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous n'avez jamais de mauvaises pensées? Ou bien vous dites, mais moi, j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas commis la vitesse. C'est pas encore être bien avancé. Hein. Quand on n'a pas tué, on n'a pas encore aimé. Quand on n'a pas volé, on n'a pas encore donné. Puis quand on n'a pas commis adultère, on n'est pas encore un saint. Pour tout ça, hein, dans nos pensées. Alors, faites bien attention. Ne pensez pas que si vous avez observé la lettre de la loi, que vous êtes juste. Jésus a repris tous les commandements de Moïse dans le sermon sur la montagne. Il dit, Moïse vous a dit ceci, mais moi, je vous dis. Il n'a pas supprimé la loi, il l'a développée. Et nous a montré ce que nous sommes. Alors, devant le sermon sur la montagne, on s'effondre quant à notre propre justice. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Du dedans de quoi? Du cœur. De mon cœur, parce que j'en sors comme tous les hommes. Alors ça, c'est des choses qui sont des faits que le Seigneur a lui-même établi. Puis, vous avez lu justement ce Jean, où vous voyez que quand Jésus était sur la terre, donc il prêchait et il accomplissait des miracles, et les gens étaient impressionnés. Vous avez lu Jean 2, verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Et c'était Jésus qui était là, hein, en personne, on pouvait le voir et l'entendre. Alors ils ont cru en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. Ils ont donc été impressionnés, émus. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, vous comprenez le passage de Marc, hein, et l'explication de ce verset. Il connaissait ce qui était dans l'homme. C'est du dedans du cœur que peuvent sortir toutes ces choses. Alors lui ne se contentait pas de voir des gens qui disaient « Seigneur, nous croyons en toi, etc. » ou « Nous avons pris la décision de te suivre. » Mais combien étaient-ils les gens qui ont pris la décision de suivre Jésus? Ils étaient des multitudes. Combien retrouvez-vous au moment de sa condamnation? C'est ça? Il a pleuré et il a dit, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point péché. Mais maintenant, ils ont vu, ils nous connaissent. Je ne crois pas. C'est quelque chose de terrible. Vous savez, des fois, à la fin d'une mission, on s'exalte. On a eu des résultats. On prétend qu'on a eu des résultats. Il y a des fois au printemps de très belles fleurs, hein. Mais quand est-ce qu'on récolte les fruits? C'est en automne. Et du printemps à l'automne, qu'est-ce qui peut se passer? De terribles intempéries, et vous aviez de belles promesses au printemps et un désastre à l'automne. Il ne faut pas seulement qu'il y ait promesses de fruits. Il faut savoir attendre. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Alors soyons très discrets, ne pensons pas tout de suite à nos succès. Et puis surtout aussi, ne mangeons pas tout de suite les fruits, car les fruits mal mûrs, ils vous donnent la colique. Vous le savez aussi bien. Si vous voulez manger les fruits, oui, vous pouvez les manger. Mais vous risquez d'être indisposé. Alors ne vous étonnez pas. Vous voyez, je voudrais que vous receviez la parole dans votre cœur. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, alors, vous avez lu les fameux chapitres des Romains, le chapitre 3. Je me souviens, dans un camp en 1939, j'avais fait une prédication dans un camp de jeunes en Suisse. Et j'avais intitulé ces versets que vous avez lus du 10 et suivant, un réquisitoire en 14 points. Et c'est vrai, je ne sais pas si dans vos Bibles vous avez trouvé qu'il y avait 14 points dans le verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne fait fi Dieu. Tous sont égarés, sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur godier est un sépulcre ouvert, ils servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont dans leur, sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alors, est-ce que c'est trop fort? Ou bien c'est ce que vous lisez dans vos journaux à peu près tous les jours? Vous les retrouvez tous ces points hein, dans les journaux. La calomnie, la fraude, tout ce que vous voulez se trouve. La destruction et le malheur sont dans leur voie. Oui, on se glorifie de marcher sur la lune. On a marché sur la lune, comme l'annonçait un saint autrefois. Pour nos enfants, puis nous qui contrôlions les lectures de nos enfants, on disait ça aussi, n'est-ce pas? Et ça nous faisait rire, mais pourtant c'est vrai. Nous on a marché sur la lune et on ne sait pas marcher sur la terre. On ne sait pas régler les choses de la terre. Puis alors on fait un bouclier, on voulait faire un bouclier spatial, des dépenses astronomiques, et puis les gens meurent de faim sur cette terre. Alors c'est intelligent, hein. Quand on dit qu'il n'y a pas d'intelligence. Il n'y a personne qui soit intelligent. Alors, à première vue, vous êtes heurté par ce réquisitoire. Mais si vous y pensez un peu, puis que vous vous associez à toute l'humanité, vous dites, on est là. Il y a tout dans cela. Et même si je n'ai pas eu l'occasion de manifester tout ce que je pourrais faire, je sais très bien dans mon cœur, il y a tout cela. Alors le verset qui est peut-être le plus difficile à admettre dans ce chapitre, vous l'avez lu aussi, c'est alors le verset 23. Il n'y a pas, au verset 22, hein, il n'y a pas de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je me souviens en 1940, c'était oui, dans une salle où étaient seulement de très jolies jeunes filles, elles étaient malades de tuberculose. Et je leur avais lu ce texte. Puis je leur ai demandé si elles étaient d'accord. Oh oui, c'était la Bible. Elles étaient protestantes, c'était la Bible. Alors elles étaient d'accord. Alors je l'ai relu une seconde. Je leur ai dit, mais vraiment, est-ce que vous êtes d'accord? Qu'il n'y a pas de différence, que tous sont pécheurs. Oui, vous êtes tout. Tout le monde est pécheur. Alors je me suis adressé à l'autre et puis je lui ai dit, alors mademoiselle, vous me permettez de vous dire qu'il n'y a pas de différence entre vous et une prostituée? Me l'a sauté en rassemblant. Et puis, à l'autre, qui était très gentil, il n'y a pas de différence entre toi et une voleuse. Elle n'était plus d'accord. Puis encore une troisième. Mais il n'y a pas de différence entre vous et une criminelle. Elle n'était plus du tout d'accord. J'ai dit, mais pourtant, vous m'avez dit que vous étiez d'accord. Vous voyez comment on lit la Bible, hein? C'est de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça coule, mais ça ne pénètre pas. Or, la parole de Dieu, celle que nous allons étudier, c'est une épée à deux tranchants. Elle doit pénétrer dans vos consciences et dans vos cœurs. Puis, souvenez-vous ce que j'ai dit souvent, il y a deux tranchants à l'épée. Il y en a un pour moi, puis il y en a un pour vous. Hein. Quand je prêche aux autres, il y a toujours un côté qui me pénètre, je ne peux pas prêcher aux autres, et puis ne pas essayer, chercher à vivre ce que je prêche aux autres. Alors c'est cela. Mais vous me direz, mais quand même, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de différence. Mais la différence, Jésus nous l'a montré par les trois résurrections qu'il a faites. Vous connaissez ces trois résurrections? La première résurrection dont il est question dans l'Évangile, c'est la résurrection de qui? La fille de Jairus. Quel âge qu'elle a? 12 ans. On vient dire au Seigneur, le Père vient lui dire, je vais devenir, car sa fille est à l'extrémité. Et en chemin, alors que Jésus s'en va avec Jairus, qu'est-ce qu'on lui dit? Chapitre 5 de Marc, ta fille est morte. Quand Jésus est entré dans cette chambre, la fille était morte. Elle avait 12 ans. Est-ce qu'elle était morte? Oui, elle était morte. Et bien morte. Mais elle était encore dans son lit. Elle avait peut-être encore quelques couleurs. Mais elle était morte. La deuxième résurrection, c'est le fils de la veuve de Nain. Dans le chapitre 7 de Luc, lui, on l'avait déjà sorti, parce qu'en Orient, on enterre le même jour, on l'avait déjà sorti de la chambre, il était sur la route du cimetière. Hein. Il était déjà dans la bière. Hein. On le conduisait au cimetière. Et le prince de la vie venait dans le sens opposé et rencontre le prince de la mort, et le cortège s'arrête. Est-ce que le fils de la veuve de Nain était plus mort que la fille de Jairus? C'est mort. C'était simplement un degré de décomposition. Et alors le troisième, vous l'avez compris, c'était Lazare. Il était dans le tombeau depuis 4 jours. La pierre de l'habitude était roulée sur lui et c'était impossible. Il était déjà en décomposition. Ils sont déjà. Mais voilà, la différence entre les pécheurs, c'est le degré de corruption. Comprenez-le? Et j'accepte le futur. Il n'y a pas de différence. C'est le degré de corruption. Parce que si je me noie à 10 mètres de la rive, ou à 50 mètres, ou à 100 mètres, je suis moins éloigné à 10 mètres. Mais ben, c'est ça que nous devons admettre, que c'est vrai, même si ça nous humilie. Et puis si tu penses que tu n'es pas capable de tomber, alors regardez David, le doux psalmiste d'Israël. Hein. Pour un moment où David n'est pas dans sa place, alors qu'il a une famille, qu'il a les femmes qu'il veut, il en convoite une autre, celle de son prochain, celle d'Urie. Et il arrive à faire quoi, celui qui a écrit ces 6 bons psaumes? À faire le lire en permission le cher Uri pour lui faire endosser la paternité de l'enfant que porte la femme d'Uri. Bon, ça fera un prématuré de 8 mois, ça passe. Hein. Le gars qui vient en permission, d'habitude, il couche avec sa femme. Mais voilà que Dieu est au-dessus de tout cela. Et le chéruri, il pense à ses troupes, il pense à ses soldats qu'il a quittés, et il ne va pas se satisfaire auprès de sa femme, il va à la caserne. Comment dire aujourd'hui? Alors, voilà, les plans de David échouent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, un grand gueuleton. Puis on va bien l'enivrer. Il enivre le chéruri et il pense que étant libre, bien sûr qu'il ira au lit. Réchauffé près de sa femme. Et comme ça, l'affaire sera réglée. Vous voyez ce qu'on peut être mauvais? Et c'était le doux psalmiste d'Israël qui a écrit les plus beaux psaumes. Mais quand on commence de glisser, on ne sait pas où l'on va tomber. Et comme Uri, tout ivre qu'il est, va quand même à la caverne. Alors, notre cher poète David se met à écrire une lettre à son général pour qu'il mette Uri à un endroit dangereux dans la bataille, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des personnes qui risquent davantage que d'autres, et puis qu'on ne le couvre pas, et qu'il meure. C'est bien fait, hein? Et voilà, notre pauvre Uri meurt. Il porte lui-même la lettre sur lui. Et qui s'est écrit cette lettre? David, le choisi loin du Seigneur, qui avait bien commencé et qui s'est laissé aller. C'est pourquoi, mes amis, vous devez veiller et vous devez savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Vos ennemis, ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Et si vous ne vous jugez pas d'une pensée qui n'est pas à la gloire de Dieu, cette pensée peut vous conduire à une parole qui est répréhensible et puis même à un acte que vous ne pourrez pas réparer. La vie de David est l'explication du chapitre 7 des Romains qu'il n'y a vraiment pas de bien dans la chair et que la chair ne s'améliore pas. Vous pouvez avoir écrit les œuvres les plus belles, écrit les beaux livres, des très beaux livres d'édification pour les âmes, et si vous ne veillez pas, vous êtes capable de déshonorer votre roi, de déshonorer votre Seigneur en quelques secondes, en une minute. C'est pourquoi nous devons veiller chaque jour, à chaque heure, et savoir nous juger comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, je voudrais que vous soyez convaincus qu'il n'y a vraiment pas de différence. Maintenant, vous allez me dire, mais alors, celui qui nous a créés, qui est celui qui nous a créés? Ben, c'est Dieu. Mais alors, pourquoi est-ce que les choses sont comme cela? Est-ce que Dieu a voulu cela? Je ne sais pas, enfin, je veux croire que tous vous croyez en l'existence de Dieu. Quand vous lisez la Bible, hein, vous ouvrez votre Bible, qu'est-ce que vous trouvez? Une explication sur Dieu? Non. La Bible n'explique pas Dieu. Et vous ne trouverez jamais une explication rationnelle sur Dieu dans la Bible. Qu'est-ce que nous trouvons? Au commencement, Dieu. Dieu ne se prouve pas, comme on a essayé de le faire bien souvent. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Je ne vais pas essayer de vous donner des preuves de l'existence de Dieu. Mais je puis vous dire, même si vous me prenez pour un fou ou un illuminé, j'ai éprouvé Dieu dans ma vie. J'éprouve Dieu dans ma vie tous les jours. Prenez-moi pour un fou ou un illuminé, ça n'a pas d'importance. Je sais que Dieu existe. Bien sûr, on vous parle des preuves de l'existence de Dieu. La première qu'on vous montre, c'est la création. La création, est-ce que ça s'est fait tout seul? Alors évidemment, il y a toute espèce de théorie pour expliquer l'origine des choses, du monde minéral, du monde végétal, du monde animal, l'origine de l'homme. Mais la Bible nous présente simplement Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, mais alors Dieu, qui c'est? Qui c'est ce Dieu dont parle la Genèse? Le premier commencement que vous trouvez dans l'Écriture n'est pas dans la Genèse. Il est où? Avant le commencement de la Genèse, qu'est-ce qu'il y avait? C'est dans Jean chapitre 1. Le prologue de Saint Jean vient avant le commencement de la Genèse. Qu'est-ce que vous lisez dans le prologue de Saint Jean, c'est-à-dire dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean? Au commencement était la parole. Donc, avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait? La parole, le logos, était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était auprès de Dieu et elle était Dieu, n'est-ce pas? Voilà ce qui était au commencement. Et puis, nous apprenons que c'est cette parole qui a créé toute chose. Toute chose furent faites par elle. Hein. Tout a été créé par elle. Et dans le chapitre 11 des Hébreux, il est dit que il faut que c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Tout se recoupe quand on connaît l'Écriture. Et il faut savoir naviguer dans l'Écriture. Il n'y a pas de contradiction. Tout se combine pour nous donner plus de lumière. Donc c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. La création est un témoignage de l'existence de Dieu. Chapitre 1er des Romains. Et il est dit que même les païens, ils ont la connaissance du témoignage de la création et que ce seul témoignage les rend inexcusables de vivre contre les lois naturelles.
Il y a des lois naturelles que vous pouvez observer dans la création des faits. Et si vous vivez en contradiction avec ces faits, ne vous plaignez pas, n'accusez pas Dieu. Dieu vous a donné une intelligence et vous devez vous en servir. Alors, nous avons la création qui rend témoignage. Les cieux racontent la gloire de Dieu, psaume 19, et l'étendue de la connaître, l'ouvrage de ses mains. La puissance de Dieu, sa divinité, sa gloire se manifestent à l'intelligence de sorte que nous sommes inexcusables de vivre comme s'il n'y avait pas eu un créateur. C'est Voltaire qui disait que au sujet d'une montre, qui ne pouvait pas croire qu'une montre existe sans qu'il y ait eu un horloger. Mais quand on dit, moi je ne peux pas croire en Dieu parce que je ne le vois pas. Tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas l'horloger, mais pourtant tu sais bien, si je te dis que cette montre s'est faite toute seule, tu me prends pour un imbécile. Ou bien vous pensez que je vous prends pour des imbéciles. Alors attention. Alors, nous croyons donc que ce n'est pas le hasard, parce que si vous enlevez Dieu, vous devez dire que tout vient du... Alors, vous pouvez choisir. Si vous voulez le hasard, ben allez avec votre hasard. J'aimerais aller avec un Dieu connu et révélé. Alors, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc, c'est ça le premier commencement. Puis, nous avons lu dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est lui qui est le créateur. Puis, je pourrais parler d'un troisième commencement que vous trouvez alors dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Cette vie qui était auprès de Dieu, elle a été manifestée sur la terre. Et alors, dans l'épître de Jean, nous voyons que ce qui était dès le commencement, c'est qui ? C'est Jésus. Et nous pouvons tout recevoir de lui. Il est la vie éternelle. Et c'est de lui que nous recevons la lumière. Alors, nous allons maintenant donner un autre point. Dans le psaume 19, il est parlé de la création, des œuvres qui parlent de Dieu. Puis, il est parlé aussi de la parole. Nous avons l'écriture sainte. Je ne vais pas allonger là-dessus, mais ceux qui lisent la Bible, sans devenir des violates, on n'adore pas la Bible comme on nous le reproche souvent. On n'adore pas le livre. On adore la parole que nous révèle ce livre. Et sans cette révélation, nous sommes toujours dans les hypothèses, nous ne connaissons aucun fait certain. Mais par la parole, nous avons des faits divins. Cette parole, nous la croyons inspirée de Dieu, et c'est elle qui est notre autorité. Mais tout ce qui est contraire à cette parole, je le mets de côté. Et il faut toujours revenir à cette parole. On vous dit telle pensée, vous dites, oui, mais où l'avez-vous trouvé? Que dit l'Écriture? Vous contrôlez ce qu'on vous enseigne par la parole. Et vous retenez ferme cette position de la parole. Et puis, il y a une voix intérieure en chacun de nous qu'on appelle la conscience. C'est les trois témoignages. Témoignage de la création, témoignage de la parole, la loi de l'Éternel est parfaite, psaume 19, et puis, la conscience, notre conscience qui nous accuse ou qui nous excuse. Nous avons tous cette voix intérieure, mais ne faites pas de votre conscience votre Dieu. Parce que vous savez, la conscience des uns leur permet ceci et la conscience des autres leur permet cela. La conscience n'est pas un guide sûr. Elle est une voix que l'on doit entendre, que l'on entend, qui nous rend responsables. Mais notre conscience n'est pas un guide sûr. Les gens qui me disent, moi, mon Dieu, c'est ma conscience. Je dis, pauvre, que de choses on fait. On a une conscience, comme il est dit dans Timothée, cautérisée. On l'a fait taire une fois, puis un endurcissement qui se produit. Alors, la parole de Dieu va réveiller notre conscience. Maintenant, j'en arrive à ce premier tableau, qui est Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons savoir de Dieu? Eh bien, Dieu, c'est la vie incréée. Il est de toute éternité. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il est de toute éternité. Alors, si je vous demandais, quelle figure géométrique pourriez-vous me désigner pour représenter la vie non créée, qui n'a ni commencement ni fin? C'est le serpent. Hein? Alors, voilà. La vie non créée peut être représentée, c'est bien schématique, hein, la vie non créée, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme nous allons le voir, peut être représentée par un cercle. Où est le début de ce cercle? Il n'y en a pas. C'est une, la définition du cercle, c'est une suite infinie de points. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas de commencement, ça peut être ça. Il n'y a pas de commencement. Le cercle nous donne donc, mais croyez-le bien, c'est une faible image quand on veut parler de Dieu, qu'est-ce que nous sommes. Mais enfin, ça nous donne une idée de ce qu'est la vie de Dieu. Une vie qui n'a ni commencement, ni fin. Voilà pour Dieu. Mais l'Écriture nous révèle que Dieu s'est manifesté, que Dieu, le Dieu unique, il n'y a qu'un seul Dieu, nous sommes monothéistes, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il s'est manifesté en trois personnes. Alors, si je vous demandais une autre figure géométrique, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous me donneriez? Le triangle. Hein? Alors, en fait, cette image, j'espère que vous voyez assez, même ceux qui sont loin, l'image du triangle équilatéral, dont les trois côtés sont égaux. Le Fils égal au Père, le Père égal au Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Alors, mais en même temps, donc, ce qu'on a fait ici, c'est au sommet, donc le Père, à la base le Saint-Esprit et le Fils. Et ce que nous disons, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Mais le Fils est Dieu, le Père est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un seul Dieu, mais manifesté dans ces trois personnes. Alors évidemment, donner des explications sur la Trinité, c'est aussi vouloir fonder quelque chose qui restera toujours mystérieux, c'est un mystère, mais pourtant c'est une réalité. Mais faites bien attention, quand vous parlez de la Trinité, vous n'êtes pas des gens qui adorent trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Ça, il faut absolument y tenir. Alors, parce que si vous séparez, eh bien, c'est la mort. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas connaître le Père sans connaître le Fils. C'est par le Fils qu'on connaît le Père. Et puis, c'est aussi par lui que nous connaissons le Saint-Esprit. Sur cette question de la Trinité, on a donné diverses images. J'aime beaucoup celle de Saint-Augustin, qui essayait une fois au bord de la mer de trouver pour sa prédication à Carthage, il essayait de trouver une explication de la Trinité. Et alors, il a eu comme une vision, il a vu au bord de la mer un petit enfant, un petit garçon, qui avait fait un trou dans le sable et qui, avec un coquillage, faisait la navette. Il allait prendre de l'eau dans la mer, puis il remplissait le trou, comme ça faisait la navette. Puis Augustin s'arrête et lui dit, mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Et puis, il dit, mais j'essaie de mettre toute l'eau de la mer dans mon petit trou. Et Augustin a une révélation, mais enfin, tu es cet enfant. Tu essayes de mettre au fond l'infini dans ta compréhension, tu es comme cet enfant. Et il a dit qu'il avait compris qu'il ne parlerait pas, il n'essayerait pas d'expliquer la Trinité, mais qu'il leur dirait, en Dieu, vous avez un Père. En Dieu, vous avez un Frère, le Fils, n'est-ce pas? Et en Dieu, vous avez le Saint-Esprit qui vient vous habiter. On a donné une autre image, le soleil par exemple. Il y a le foyer qui est inaccessible, c'est Dieu le Père. La lumière, c'est le rayon qui vient jusqu'à vous, c'est Dieu le Fils. Et puis la chaleur, c'est ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, ce qui vous est communiqué. Mais tout ça sont des images bien maigres. Hein. On a dit aussi que Saint Patrick
que vous connaissez peut-être, enfin, il n'y a pas, pas d'Irlandais ici, celui qui aurait évangélisé l'Irlande, et quand il voulait expliquer aussi le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il était très tourmenté par ça, puis tout à coup il avait un trèfle. Alors il a ramassé ce trèfle et il leur a dit, bien, comme vous voyez un trèfle, il y a un trèfle, mais trois lobes distincts, ainsi en est-il de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un trèfle, mais trois lobes distincts. On a dit aussi, on a pris comme exemple une femme, par exemple, c'était aussi un homme. Une femme peut être fille, elle peut être épouse, puis elle peut être mère, n'est-ce pas? La même femme. Mais il y a une distinction entre la mère, alors on peut distinguer en Dieu les trois personnes, mais il ne faut jamais les séparer. Parce que alors, vous avez des sectes qui ne parlent que de père, hein? Les unitariens. Bon. Et vous en avez d'autres qui ne parleront que du fils. C'est Jésus, Jésus à toutes les sauces. Jésus, Jésus, il n'y a qu'à croire au Seigneur Jésus, puis voilà, Jésus. Et puis, il y a aussi ceux qui ne parlent que du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous faire connaître Jésus, le Fils, pour glorifier le Fils. Mais enfin, voilà, une simple idée sur ce que nous enseigne l'Écriture, c'est très résumé. Mais maintenant, ce Dieu créateur, ce Dieu unique, a eu un projet, un plan, c'est ce que nous révèle la Bible. Et ce plan, c'était donc, il a créé le monde, Dieu a créé les cieux et la terre, et puis, il avait une idée. Un plan qui était de créer un être au bonheur duquel il voulait travailler. Et cet être, c'était l'homme. Et le plan de Dieu, le dessein éternel de Dieu, là il y aurait plusieurs passages à lire, dans l'Épître aux Romains en particulier, mais je vous lis seulement ceci, au chapitre 8 des Romains, verset 29. Ce que Dieu a préconnu, a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Donc, Dieu a décidé, dès les temps éternels, dans la communion de son Fils, de créer un être au bonheur duquel il allait travailler. Et cet être, évidemment, puisque Dieu est parfait, cet être devait être parfait comme Dieu est parfait. C'est bien pour ça que Jésus disait, soyez parfait comme votre Père, Céleste, est parfait dans le sermon sur la montagne. Mais je voudrais vous montrer la différence qu'il y a entre la vie incréée et la vie créée. C'est ici que nous essayons de la représenter. Le premier Adam, dont vous avez l'histoire dans cette expression. Ce schéma peut nous représenter la vie créée. Cette vie créée vient de la vie non créée. L'homme, il a un commencement, puis ensuite, il n'a pas de fin. C'est pas la vie immortelle, c'est pas l'immortalité, ça, mais c'est une vie qui ne finit pas. La vie, nous la recevons de l'être incréé, et voilà la vie créée. Nous n'avons pas toujours existé, nous avons eu un commencement, et c'est ce trait qui peut représenter ce commencement, mais nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous avons un commencement. Et forcément, créer à l'image de Dieu, voilà comment était l'homme, si je peux le représenter ici, avant la chute. Créé à l'image de Dieu, il est créé aussi Trinité. L'homme est une trinité, il a un esprit, une âme et un corps. Vous avez l'homme tout entier créé à l'image de Dieu, comme aussi une trinité, il est esprit, âme et corps. Nous avons ce texte, il y en a bien d'autres, mais j'en cite un au moins, qui est de Paul au chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez maintenant, c'est que l'homme a été créé par Dieu selon un plan bien défini. Avant même la création du monde, Dieu avait un plan pour l'homme et qu'il voulait heureux. L'être plein d'amour qu'est Dieu voulait un être au bonheur duquel il voulait travailler et il allait le créer à l'image de son Fils bien-aimé. Mais dès que vous lisez l'Écriture, vous vous demandez pourquoi certaines choses se sont passées. Reprenons Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que vous lisez au verset 2 ? Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alors vous vous dites, mais c'est ça que Dieu a créé ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur cette création des cieux ? Parce qu'il n'est pas parlé des cieux en dessous, parce qu'il est dit que la terre était informe et vide. Donc, quand Dieu a créé les cieux, il a créé des êtres pour les cieux. Et qui sont ces êtres qu'il avait créés pour les cieux ? C'était les anges. Ça, il faudrait que je développe tout cela, mais vous avez ça dans la Bible. Dieu a créé les anges. Et vous avez au psaume, dans Job, au chapitre 38e, un texte qui est bien éclairant. Quand Dieu parle à Job, il lui dit ceci, au chapitre 38. Où étais-tu, verset 4, quand je fondais la terre, dis-leur, si tu as de l'intelligence, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand Dieu a créé la terre, les anges, qui étaient les créatures qu'il avait faites pour le ciel, éclataient de joie, étaient dans l'admiration devant les œuvres de Dieu. Et c'est là que nous avons la révélation d'un grand mystère. Job, chapitre 38, verset 4. Où étais-tu, parce qu'on accuse toujours Dieu, mais où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, etc. Sur quoi repose tes bases? Et puis verset 6. Alors que les étoiles du matin et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Nous apprenons donc à travers la Bible que Dieu a créé les anges. Et ce verset 2 est troublant. Comment est-ce que cette création, Dieu n'a pas pu créer la terre vide et désolation, ténèbres? C'est pas Dieu qui a fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2 de la Genèse? Parce que tout n'est pas dit dans ce texte. Alors, je prends dans le chapitre 45 d'Ésaïe, qui va nous donner de la lumière. Est-ce que Dieu a créé la terre pour qu'elle soit vide, pour qu'elle soit déserte? Ésaïe 45, qu'est-ce que vous lisez? Au verset 18e.
Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas vide ou déserte. Hein. Donc, il a juste passé quelque chose. Et ce que nous apprenons, c'est que le chef de toute la création céleste, c'était qui? C'était un ange. Hein. Un ange qui est appelé, dans le chapitre 14 d'Ésaïe, Lucifer, le porteur de lumière. Et nous pouvons aussi prendre le chapitre 28e d'Ézéchiel, qui nous révèle que cet ange, porteur de lumière, ou le chérubin roi, était le chef de tous les anges et de cette merveilleuse création, le ciel et la terre, que Dieu avait formé. Dieu a formé le ciel et la terre. Et quand il a formé la terre, c'était si beau que les anges acclamaient leur créateur. Que tout ce que Dieu fait est beau, est bien, est bon, est agréable à voir. Et vous avez une description dans le chapitre 28 d'Ézéchiel de ce qu'était cette première terre. C'était un véritable Éden. Après, il y a eu un jardin qui s'appelait en Éden, dans un certain lieu, et il y avait un jardin qui s'appelait Éden. Hein. Mais avant, dans la première création, quand du haut commencement Dieu créa les cieux et la terre, tout était un véritable Éden. Et celui qui dominait sur Éden, que vous preniez au chapitre 14 d'Ésaïe, ou au chapitre 28 d'Ézéchiel, c'était cet ange, Lucifer, porteur de lumière. Mais là, alors, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, d'après ce qu'on lit dans l'Écriture, Dieu révèle à ses anges ce qu'il va faire. Pourquoi il crée cette terre si belle? Il va créer un être au bonheur duquel il va travailler, et cet être, il le prédestine à être semblable à qui? À l'image de son fils. Qui est-ce qui était plus haut que Lucifer jusqu'à présent? C'était son fils, c'était Jésus. Alors, comment est-ce que, je vous montrerai pourquoi je crois ça, comment est-ce que le mal est entré dans le cœur de Lucifer? Quand il apprend soudainement que quelqu'un risque d'être plus haut que lui, alors il s'oppose au dessein de Dieu. Le mal qui vous trouble si souvent, l'origine du mal. Le mal n'avait pas d'existence propre. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal était une possibilité. Le mal n'avait pas d'existence propre. C'était pas une réalité, le mal. C'était une possibilité. Pour qu'il y ait mal, qu'est-ce qu'il fallait? Une opposition au bien. Il fallait qu'il y ait une opposition au bien. Or, Dieu est le bien absolu. Alors, puisque les anges étaient des créatures, aucune créature ne devait s'élever contre son créateur. L'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Aucune créature ne peut être prétendre à l'indépendance. Nous avons eu, comme on l'a montré ici, nous avons eu un commencement. Hein. Alors, les anges aussi ont eu un commencement. Ils ont été créés, mais créés pur esprit, tandis que nous, nous avons un corps de chair. Mais voilà Dieu qui révèle qu'il va créer un être au bonheur duquel il va travailler et qu'il destine à être donc semblable à son fils bien-aimé. Et c'est là qu'on peut penser que l'orgueil est monté dans le cœur de Satan et d'après le 14 d'Ésaïe, il a voulu s'opposer à Dieu, s'élever à Dieu. Il était si grand, il avait un tel rôle qu'il a voulu supplanter Dieu, faire opposition à Dieu. Et c'est là qu'il est dit, son cœur s'est élevé, il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'est là qu'a été sa chute. Il a voulu prendre la place de Dieu. Pourquoi est-ce que je pense cela? Eh bien, je pense cela parce que Jésus nous a montré où était l'origine du mal. Chapitre 8 de Jean. Au chapitre 8 de Jean, au verset. Moi, ça me suffit pleinement la parole de Jésus pour connaître l'origine du mal. verset 45. Déjà le verset 43, il dit aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voyez que vous arrivez aux origines. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, ou il dit, il n'a pas persévéré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est meurtrier dès le commencement, il est menteur et le père du mensonge. Cet être libre, à cause de sa beauté, comme il l'est dit dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe chapitre 14, il s'est élevé. Vous voyez, je dis Ésaïe 14. Te voilà, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Il a voulu donc s'élever par orgueil, il a voulu s'opposer à Dieu. Et comme je dis encore, juste que vous ayez une idée d'Ézéchiel 28, vous ne pensiez pas que ce sont mes propres pensées, Ézéchiel 28. Le verset 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, etc. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur, avec les ailes déployées, je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu avais été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité se soit trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu avais été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin, protecteur du milieu des pierres étincelantes. Et ce que l'on peut penser, n'est-ce pas, c'est que Satan, déchu, a bouleversé la terre. Cette terre qui était belle en tout, eh bien, Satan l'a rendue au fond désolation et vide. Pour quelle raison? Pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Puisque Dieu a créé la terre et qu'il veut placer l'homme sur la terre, eh bien Satan va détruire, enfin devenu Satan, il va détruire la terre et la rendre dans un état chaotique. Mais comme Dieu est Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va restaurer cette création qui a été bouleversée par l'ange de l'abîme. Et vous avez cela dans le chapitre 1er de la Genèse. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et au fond, vous avez dans ce chapitre 1er de la Genèse une restauration. Et alors, entre le chapitre 1er, entre le verset 1er et le verset 2, vous pouvez y mettre toutes les années que les savants veulent, n'est-ce pas? Au sujet de... Alors, il n'y a pas de contradiction, n'est-ce pas? Entre ce que Dieu avait fait et ce que Dieu a restauré, il peut y avoir tous les âges
qu'on vous apprend dans le domaine scientifique. Il n'y a pas de contradiction à ce sujet-là. Mais il faut connaître la Bible d'une façon globale pour pouvoir tenir et ne pas douter. Alors, on peut même prendre le chapitre premier de la Genèse pour montrer comment Dieu restaure une âme, parce que c'est au fond notre histoire, ce chapitre premier. Nous sommes déchus, nous aussi. Et puis Dieu nous recrée, parce qu'il est parlé d'un homme nouveau. Hein. Dieu va nous recréer. Alors, qu'est-ce qui commence? Que la lumière soit. Mais qu'est-ce qu'on a vu qui planait au-dessus des eaux? L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Mais au-dessus de l'humanité, l'Esprit de Dieu plane pour amener des âmes à se convertir. Et quand une âme est touchée par l'Esprit, qu'est-ce qui est apporté dans son cœur d'abord? La lumière. On chante « Je ne sais comment la lumière éclaira tout mon corps ». C'est Dieu qui, du sein des ténèbres, a dit que la lumière soit. Alors, vous pouvez voir toutes les étapes de la recréation en nos âmes dans le chapitre premier de la Genèse. Les pères de l'Église ont fait souvent des commentaires là-dessus, saint Augustin en particulier, ce qui s'est passé le premier jour dans une âme, le deuxième jour, le troisième jour, et puis comment tout à coup on prend conscience des choses célestes, etc. C'est quelque chose d'absolument merveilleux de pouvoir lire la Bible, de la sonder, de la manger. Ces paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. On se retrouve, on se reconnaît là. Alors, vous voyez, je vous donne seulement quelques jalons. J'espère que vous serez intéressés à sonder les Écritures et à avoir la lumière. Par ta lumière, nous aurons la lumière. Alors, c'est dans le cœur de Satan, de Lucifer, que le mal s'est trouvé. Il est le menteur et le meurtrier dès le commencement. Alors, Dieu n'est pas empêché, la révolte de Satan n'a pas empêché Dieu d'arriver à ses fins. Il a restauré tout, et puis il crée ce jardin d'Éden, et il crée l'homme. Mais alors, comment crée-t-il l'homme? Bien, il le fait esprit, âme et corps, et à l'image de son fils, qui va venir, lui, plus tard, pour réparer la faute du premier homme. Mais, que va faire Satan qui n'a pas pu empêcher la création de l'homme? Je vais vous dire maintenant simplement quelques mots sur ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme, ce qu'est le corps, selon l'Écriture. Le corps, comment le livre de la Genèse nous montre-t-il qu'il a été formé? Dieu l'a formé de quoi? De la terre. Hein? Nous avons été façonnés de la terre. Mais le Seigneur, Dieu, le Créateur, nous a façonnés de la poussière du sol. Et il a formé en quelque sorte une statue. Hein? C'était une statue, si vous voulez. Mais, tant qu'il n'y avait pas le souffle, c'était une statue, il n'y avait pas de vie. Alors, Dieu a tiré du sol le corps. Les animaux ont été tirés d'où? Du sol. Donc, les mêmes éléments chimiques, vous pouvez les trouver chez les animaux, comme aussi chez l'homme, n'est-ce pas? Il nous a créés de la même manière. On a été tirés de la poussière, il nous a tirés du sol. Puis, Dieu se penche, et il dit, il souffla en l'homme une respiration de vie. Vie, même dans le texte hébreu, est au pluriel. Et l'homme devint une âme vivante. Alors, voilà, il est devenu une âme vivante. Et ce qu'on apprend au sujet de la formation de l'homme, c'est que l'homme est aussi cette trinité, esprit, âme et corps. Qu'est-ce que le corps? Bien, le corps, c'est la partie visible de notre être par laquelle nous communiquons avec le monde. Et c'est dans le corps que se trouvent les sens. Nos sens sont dans notre corps. Le corps est le siège des sens et du sentiment du monde. Ce que le monde voit, c'est pas mon âme d'abord, c'est mon corps, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a que mon corps, ben je serai un cadavre si elle n'est pas animée par l'âme. Si le corps n'est pas animé. Alors, l'âme, c'est ce qui est appelé en grec la psyché, hein, la vie psychique.
Et puis l'esprit, c'est le pneuma, c'est le souffle. Alors, l'esprit de l'homme, c'était la partie supérieure de notre être. Dieu est esprit. Et il a créé notre esprit. C'est dans l'esprit que se trouve le siège du sentiment de Dieu. Le siège du sentiment de Dieu est dans notre esprit. Et l'esprit est invisible. Dieu est invisible. Mais notre esprit aussi est invisible. Mais nous avons le siège du sentiment de Dieu dans l'esprit. Et puis, dans l'âme, c'est la partie intermédiaire. On peut dire l'esprit est dans l'âme, et l'âme et l'esprit sont dans le corps. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'âme, c'est là que nous avons le sentiment de soi. Le moi habite dans l'âme. L'essence dans le corps, le moi habite dans l'âme. L'âme, c'est notre intelligence, notre volonté, nos émotions, ce qu'on appelle le cœur, tout ce qui fait partie de notre personnalité. Ça, c'est l'âme. L'âme, c'est notre personnalité. Le moi est dans l'âme. L'essence sont dans le corps, le moi est dans l'âme. Sentiment, intelligence, volonté, c'est du domaine de l'âme. Et l'esprit, créé par Dieu, était une lampe du Seigneur. Vous avez ce merveilleux verset dans les Proverbes. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur qui sont toutes les profondeurs du cœur. Vous avez ça dans Proverbes chapitre 20. Verset 27. C'est parce que vous avez dans votre version, vous avez la version seconde? Ou le souffle. Mais littéralement, c'est l'esprit. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur. Elle sonde toutes les profondeurs du cœur. Où il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Mais littéralement, il sonde toutes les profondeurs du cœur. Alors, dans la pensée de Dieu, le Créateur, qui voulait travailler au bonheur de l'homme qu'il avait créé, l'esprit devait être le maître de la maison humaine. L'âme, si vous voulez, l'intermédiaire, l'économe, et le corps devait être le serviteur. Comprenez-vous? Dieu dominait l'homme par en haut. Dieu est esprit, et il était en communication avec notre esprit. Dans le premier Adam. Adam, son péché. Et alors, l'esprit de l'homme, lampe du Seigneur, éclairé par le Seigneur, rendait l'intelligence de l'homme extraordinaire. C'est pas du tout ce qu'on vous enseigne, que l'homme se serait développé et qu'il serait sorti de l'animalité. L'homme était la créature de Dieu. Ce qui arrive maintenant, c'est qu'il va vers la bête. Comprenez-vous? C'est tout le contraire. Nous dire que les hommes autrefois étaient des stupides, ils n'avaient pas grand-chose, ce n'est pas vrai. Quand l'esprit d'Adam, son péché, était éclairé par Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la nomenclature de tous les animaux. Dieu l'a fait venir et c'est l'homme qui a donné le nom à tous les animaux qui ont passé devant lui. Nous dit, croyons à la parole. Adam a pu donner le nom à tous les animaux devant Dieu et qui était son créateur. Dieu a donné à l'homme la possibilité de montrer ce qu'il était, ce qu'il pouvait. Et l'homme, éclairé par l'esprit de Dieu qui était dans son esprit, eh bien, dans son intelligence, l'âme, la volonté, tout ça, l'âme était soumise à l'esprit. Et le corps était là, le serviteur. Les sens étaient dominés par l'esprit. Comprenez-vous? Et alors, comment est-ce que Satan a mis le trouble? Comment, quand il a vu qu'il ne pouvait pas empêcher la création du premier homme, esprit, âme et corps, que l'homme a été en Éden, et que chaque fois que Dieu visitait l'homme, c'était pour lui apporter une bénédiction plus grande. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Alors, Satan a voulu détourner l'homme de sa vocation et de sa mission. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu, de toute façon, alors il va s'attaquer à l'homme. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand vous devriez relire, enfin vous savez ces choses, je ne veux pas vous faire de l'histoire, mais le chapitre 2 de la Genèse, que Paul a repris lui aussi sur la création d'Ève, puis aussi ensuite sur la chute. Verset chapitre 3. Donc l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas de honte. C'était quelque chose de merveilleux. Quand Dieu a créé la femme, qu'il a tirée de l'homme, que l'homme a pu voir sa femme, et c'était l'amour, ça c'était l'amour. C'était le vrai amour. Il n'avait pas de honte en étant tiré de Dieu, placé comme Dieu les avait créés. Toutes leurs pensées étaient dirigées vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu avait dit? Croissez et multipliez. Donc la sexualité, il l'avait établie aussi. Mais ce n'était pas un mal. Or maintenant, qu'est-ce que ça est devenu? On ne parle plus que de ça. C'est tellement drôle. Quelqu'un disait l'autre jour, qui soupait avec une dame, très bien, enfin c'était dans un grand repas, puis il a posé cette question à cette dame: est-ce que vous aimez faire l'amour? Puis quelle a été la réponse de cette dame? Oh, je ne peux pas vous dire, je suis mariée et je n'ai jamais trompé mon mari. Quand on est marié, on ne fait pas l'amour. On ne peut pas faire l'amour. Faire l'amour, c'est tromper. Hein. Mais voilà où on en est arrivé. Mais dans la création première, Dieu avait établi ces choses. Mais il avait établi cette relation, pourquoi? Pour la procréation, quand même. Vous ne pouvez pas l'enlever, ça. Dieu a donné cet ordre à Adam avant la chute. N'est-ce pas? Croissez et multipliez. C'est pas simplement en te regardant. Il n'y avait pas de mal à ça. Et alors, on vous a traumatisé pendant longtemps en faisant croire que la relation sexuelle était le péché. C'est pas le péché. C'est pas une relation sexuelle qui était le péché. Le péché originel, c'est pas une relation sexuelle. C'est pas vrai du tout. Enlevez tout cela, tout ce qu'on a pu vous dire pour vous culpabiliser. C'est pas cela. Mais c'était tout autre chose. Alors, vous voyez, si l'homme était resté dans la communion avec Dieu, Dieu était là. Et ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ils étaient devant Dieu, nus, sans honte. Il y aura un tas de textes qu'on pourrait reprendre pour vous montrer la beauté de tout cela, qu'on retrouve encore dans le Cantique des Cantiques. Eh bien, mes amis, voilà. Dieu dominait l'homme par l'esprit. Était éclairé, il était la lampe du Seigneur. Mais maintenant vous me direz, mais et quelle est la différence entre l'esprit et l'âme? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Parce que si souvent dans l'écriture on trouve le mot esprit puis le mot âme d'une façon un peu indifférente. Mais pourtant, il y a une distinction, et je vous cite un verset sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Hébreux, chapitre 4, verset. Donc, parce que beaucoup font une confusion. Et justement, je voudrais que vous puissiez bien comprendre. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Donc il y a une distinction entre l'âme et l'esprit. Jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui. Toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons à rendre compte. Alors Alors nous en sommes là à la création de l'homme, créé à l'image de Dieu. Dieu a mis des arbres dans le jardin. Et qu'est-ce qu'ils sont ces arbres? Qu'est-ce qu'il est dit de ces arbres? Ils sont agréables à voir et bons à manger. Donc Dieu aime la beauté. Il a créé des choses agréables. Dieu aime la beauté, agréable à voir et bon à manger. Il n'y a pas de poison dans les choses que Dieu a créées. C'était bon à manger. Puis il y avait l'arbre de vie au milieu ou sur le bord, au milieu du jardin. Et est-ce qu'il y avait une défense d'aller à l'arbre de vie? L'homme pouvait se nourrir de l'arbre de vie. Et s'il s'était nourri de l'arbre de vie, dans la communion avec Dieu, il n'aurait pas eu de mort. Pas de possibilité de mort. Dieu voulait travailler au bonheur de sa créature. Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais Dieu l'avertit bien parce que il faut que Adam soit éprouvé, soit mis à l'épreuve, parce que Dieu voulait une créature libre à son image et à sa ressemblance. Les animaux ne sont pas des créatures libres. Dieu a établi des lois et ces lois, eh bien, elles opèrent. Mais pour l'homme, Dieu l'avait créé libre. Mais libre n'est pas indépendant, c'est ce que vous devez bien comprendre. La liberté n'est pas l'indépendance. Être libre, ce n'est pas être indépendant. On ne peut pas être indépendant. L'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Et qu'est-ce que Satan avait voulu pour lui-même? L'indépendance, prendre la place de Dieu. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Sous la forme du serpent, vous connaissez l'histoire, il s'est approché de l'homme. Et il a attaqué l'homme par en bas. Dieu le dirigeait par en haut, esprit, âme, foi. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a attaqué par la porte de l'oreille. Il a parlé. Et Ève a écouté. Puis ensuite, il a dirigé ses yeux sur quoi? Sur l'arbre de vie? Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui a menti. C'est le menteur et le meurtrier. Tel commencement. Ève a écouté, et puis au fond, quel est le péché d'Ève et d'Adam? Ça a été une désobéissance. La loi n'avait pas encore été donnée. Adam n'avait pas à choisir, il avait à obéir. Il avait simplement à obéir. Et tant qu'il était dans l'obéissance, il était dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui est le secret de la vie de Jésus? C'est l'obéissance. Vous allez comprendre pourquoi il est appelé le second Adam. Ce qu'Adam n'a pas réalisé, le second Adam l'aura réalisé. C'est pour ça que c'est en Jésus que nous avons notre vrai modèle, notre vraie vie. Adam a désobéi. Jésus a obéi. Jésus qui serait le second Adam. Mais alors, cette désobéissance, qu'est-ce qu'elle a produit? La communion avec Dieu s'est interrompue. Tant que Adam était en communion avec Dieu, puisque l'Esprit était la langue du Seigneur, l'homme tout entier était dans la lumière. Mais se coupant de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? La lampe s'est éteinte. La lampe s'est éteinte et l'homme tout entier est tombé dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? L'homme en chute, ça vous donne ça. Esprit, âme et corps. L'homme séparé de Dieu, vous allez lire cela cet après-midi, il n'est plus que chair. Et la chair, c'est pas seulement le corps, vous allez bien le comprendre, que nous allons essayer de voir. Souvent, on emploie le mot chair pour le mot corps. Non, la chair, c'est aussi l'âme. L'homme n'est plus que chair. Mais l'esprit, il existe toujours, mais il est éteint, en quelque sorte, chez l'homme perdu. Ce n'est plus Dieu qui dirige l'homme, mais Satan, qui a réussi cette séparation, devient le maître de l'homme. Et comment est-ce que Satan opère? Il domine par en bas, par le corps et par l'âme. Alors, jusqu'à présent, c'était l'esprit qui dominait. Maintenant qu'on a écouté la voix de Satan, Satan est devenu le prince de ce monde. Qui devait être le prince de ce monde? C'était Adam, c'était l'homme qui devait être le prince de ce monde. Mais maintenant qu'il a écouté la voix de l'usurpateur a pris la place. De sorte que l'homme est maintenant un esclave. Le corps est devenu le maître de la maison, l'âme reste, si vous voulez, l'économe, mais l'esprit est l'esclave. Nous sommes devenus des esclaves. Et alors, c'est nos sens qui dominent sur notre intelligence, sur notre volonté, sur nos affections. On est dominé par nos sens, par les cinq sens, le goût, l'odorat, le toucher, tout cela. Nos sens sont devenus les maîtres. Et puis, notre intelligence, notre volonté, eh bien, elle est chancelante. Il y a bien encore la conscience qui est dans l'esprit, mais on la fait taire, on fait taire sa conscience, et on est dans cette position d'esclave. Voilà l'homme après la chute. Avant la chute, il n'y avait pas de péché en l'homme. Le péché n'était qu'une possibilité, mais pas une réalité. Qui est-ce qui a donné au péché une réalité? Satan. Satan a apporté le péché dans l'homme. Et c'est ce qu'il a dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais qui est-ce qui avait mis dans l'homme le péché? C'est Satan. C'est sur l'instigation de Satan. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut pour Satan. Tandis que pour l'homme, il y a un salut. Alors, nous allons nous arrêter là. C'est l'homme en chute. L'homme, comme vous le voyez dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Il n'y a point de juste. Nous sommes tous comme ça. Même l'homme le plus intelligent, eh bien, s'il n'a pas le Seigneur, s'il n'a pas la vie, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Et ce que nous allons voir cet après-midi, c'est comment Dieu, dans son amour, une fois que l'homme a été dans cet état, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi le plan de la rédemption. Alors, pour racheter l'homme, le Fils de Dieu s'est incarné. Voilà l'image du Dieu homme. L'étoile représente sa divinité, n'est-ce pas? Il était Dieu, mais il a revêtu un corps et une âme. Il a revêtu notre chair. Et la chair, c'est aussi bien l'âme que le corps. Et vous devez bien vous souvenir de ça. La chair, c'est pas seulement le corps. Parce qu'il y a une foule de gens qui n'ont pas le Seigneur et qui ne sont pas des mécréants, qui ne tuent pas, qui ne volent pas, et qui ne sont pas corrompus dans leur mœurs. Il y a des gens qui sont vertueux, mais ce sont des gens de chair. Alors notre chair, c'est pas seulement le corps, c'est aussi l'âme. Alors nous ne devons pas seulement être délivrés des péchés grossiers, mais de tout ce qui vient de l'âme, pour que tout soit gouverné par l'esprit. Ça, nous aurons l'occasion de méditer là-dessus cet après-midi. J'en reste là, simplement ici, la réponse du Seigneur. Pour restaurer la création, le second Adam, ou le dernier Adam, puisque le premier Adam a été en chute, Dieu prend la responsabilité du péché et c'est lui qui va sauver l'homme. Alors nous allons voir comment l'œuvre se fait en nous et comment nous allons trouver, parce qu'on y arrivera, la mort est ressuscitée avec Christ. Mais je vous donne d'abord des bases. Et puis après, seulement pour vous encourager, comment ça se passe quand on s'en vertu, Karine?
C'est la vie d'ici qui vient, là. Mais c'est encore petit, hein.
Vous voulez voir la suite? C'est seulement pour vous encourager, pour que vous puissiez un bon repas.
Alors, c'est pas que ça s'améliore, c'est la vie. Ça devient pas blanc. C'est une autre vie. Mais il faut la laisser. Prendre possession. Mais tant que nous serons sur la terre, il y aura toujours du noir. Mais quand le Seigneur viendra, nous y serons semblables, car nous le verrons comme il est, notre humanité tout entière, esprit, âme et corps, seront rendus semblables à Christ. Mais qu'est-ce qu'il aura fallu pour que cette vie ici passe là? Eh bien, il aura fallu la croix, que nous allons voir. Parce qu'il y a un abîme entre la sphère de la vie éternelle et la sphère du péché. Depuis la chute d'Adam, nous naissons, par la naissance physique, nous naissons là. Toute personne qui naît de la naissance physique, il naît dans la sphère du péché. Nous naissons là. C'est pour ça que Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. Ça, c'est la sphère de la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais entre les deux, il y a un abîme. On n'est pas un peu plus loin. Et puis, pour passer de là, ici, il faut passer par la croix. Comprenez-vous? En fait, ça, c'est juste pour que vous puissiez dîner avec un peu d'appétit. Avec espérance. Est-ce que vous pensez que ces schémas peuvent quand même vous aider un peu?
Oui.
Au moins pour fixer les choses. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il y avait des années que je n'avais pas repris ça, puis j'ai pensé à tous ces hospitalisés français qui n'avaient jamais lu la Bible, puis je les retrouvais le soir dans les cénacles, ils mangeaient cette parole, ils comprenaient, puis ils étaient transformés aussi. Alors je me suis dit, peut-être que ça pourrait aussi nous aider ici de reprendre ces choses-là dans la simplicité. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette matinée et nous voulons te demander que tu nous guides pour cet après-midi et que nous puissions voir quelque chose de ton œuvre glorieuse et merveilleuse pour chacun de nous. Amen.
Amen.